Le service Orange Monnaie, réception d'argent depuis la France, en partenariat avec la Banque Atlantique, vous propose Appel sur l'actualité. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Merci d'être avec nous. Vous l'avez compris, en raison d'un mouvement de grève nationale contre la réforme de retraite, nous n'avons pas été en mesure de vous présenter le journal. Toutes nos excuses, en tout cas l'équipe est maintenant au complet. Durant près d'une heure, RFI vous donne la parole, d'abord évidemment avec vos questions sur l'actualité, et puis ensuite nous lancerons un débat. On parlera de la crédibilité des Nations Unies, puisqu'aujourd'hui s'ouvre à New York l'Assemblée Générale de l'ONU. Les chefs d'État et de gouvernement vont à tour de rôle prendre la parole à la tribune pour exprimer leur vision du monde. L'Assemblée Générale des Nations Unies, ce ne sont pas que des discours. Il y a surtout les rencontres, les tête-à-tête entre dirigeants. On parlera du climat, de l'Iran, de la situation sécuritaire au Sahel. En tout cas, ce matin, j'ai envie de vous entendre sur l'efficacité des Nations Unies. C'est vrai que ces dernières années, l'organisation a été très critiquée, notamment pour son impuissance dans la guerre en Syrie, au Yémen ou encore en Libye. Quel regard portez-vous justement sur cette organisation? Peut-on pour autant se passer des Nations Unies? Vous continuez à nous appeler 33 9 693 693 70 et comme tous les matins évidemment, je lirai quelques-uns de vos commentaires pour alimenter la réflexion. Des questions donc pour commencer, on va s'intéresser à Greta Thunberg, cette adolescente suédoise qui mobilise les jeunes à travers le monde pour lutter contre le réchauffement climatique. Bonjour Jean-Marc.
Bonjour Juan.
Vous êtes à Lubumbashi, vous nous avez envoyé des questions sur la page Facebook de l'émission, on vous a donc recontacté, vous êtes en direct ce matin, on vous écoute.
Oui, ma question est autour de la jeune militante écologiste Greta Thunberg.
Oui.
Eh ben, depuis 2018, on remarque un certain engouement autour de la jeune militante. Pourquoi une telle médiatisation?
Alors, pourquoi une telle médiatisation, effectivement? C'est vrai qu'elle fait la une des médias, elle était encore hier à l'ouverture du sommet de l'ONU sur le climat, où elle a exprimé sa colère devant une soixantaine de dirigeants. Bonjour Agnès Rougier.
Bonjour Juan et bonjour Jean-Marc.
Vous suivez pour RFI le dossier climat. Peut-être pour comprendre cette médiatisation, il faut revenir quelques instants sur son jeune parcours.
Oui, oui. Greta Thunberg est née le 3 janvier 2003 à Stockholm, en Suède. Et puis en un an, elle est devenue la porte-parole de la jeunesse en lutte pour le climat. À 15 ans, en 2018, elle proteste devant le Parlement de Suède contre l'inaction face au changement climatique et à la suite de quoi, elle initie au mois de novembre cette grève de l'école pour le climat, le mouvement Friday for Future. Et puis elle part en décembre à la COP24 à Katowice, en Pologne, où là, elle s'exprime devant les Nations Unies. Et d'ailleurs, en ce moment, l'Assemblée Générale des Nations Unies se déroule à New York. Et pour s'y rendre, eh bien, elle a quitté l'Europe en août dernier pour traverser l'Atlantique, en bateau, à bord d'un voilier, parce qu'elle ne veut pas prendre l'avion.
Ouais, alors justement, est-ce que ce n'est pas une posture, le fait de dire je prends un voilier le plus écolo possible pour aller à New York?
Écoutez, je ne crois pas. En fait, Greta Thunberg, comme beaucoup de jeunes que j'ai rencontrés, est consciente que si rien ne se passe, si on ne fait rien, le changement climatique va rendre la planète inhabitable et elle a peur, tout simplement. Ralentir le réchauffement, ça implique d'accorder nos actions à nos discours et ça, c'est ce qu'elle fait. Il faut dire que la jeune fille a souffert d'une dépression en raison du risque climatique et qu'elle a un trouble lié à l'autisme, ce qui lui procure probablement un regard plus aigu et une détermination particulière. Mais il ne faut pas oublier que tous ces discours s'appuient sur des données objectives. Ce sont celles du GIEC, les experts pour le climat.
Elle n'est pas scientifique, mais elle se base évidemment sur des éléments scientifiques.
Oui, 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 absolument. Et son militantisme radical lui a valu quand même de faire la couverture de Times Magazine en mai dernier.
Ouais. Est-ce que ce n'est pas finalement cette radicalité dans son discours qui la rend médiatique?
C'est sûr que ça y participe. Hein. Une des clés de la popularité de Greta Thunberg, c'est qu'elle ne laisse pas, elle ne se laisse pas acheter par les adultes. Hein. Elle ne cède pas aux promesses, les décorations et autres gadgets ne l'intéressent pas. Elle est déterminée. On l'a nominée au Children's Climate Prize, c'est-à-dire le prix des enfants pour le climat. Eh ben, elle a préféré décliner l'invitation parce que tous les nominés devaient venir en avion à la cérémonie. Et le 1er novembre 2018, elle déclarait « Notre génération ne pourra pas prendre l'avion sauf en cas d'urgence parce que les adultes ont déjà utilisé tout notre budget carbone ».
Voilà donc pour la médiatisation de cette jeune Suédoise. Jean-Marc, vous aviez une autre question, il me semble.
Bien sûr, ça fait pas court pour la jeune Greta Thunberg, mais depuis un certain temps, on entend des voix qui s'élèvent contre la jeune militante. Pourquoi ?
Ah, pourquoi est-elle critiquée? C'est vrai que cette célébrité lui vaut de nombreuses attaques, Agnès Rougier.
C'est vrai qu'elle est inflexible, et ça agace. Nous, on peut tous se dire, oui, les avions polluent, émettent beaucoup de gaz à effet de serre, mais à quoi ça sert que j'arrête de prendre l'avion si les autres ne le font pas? Greta Thunberg n'envisage pas du tout les choses comme ça. Elle a des convictions, elle dit, elle fait. Mais la culpabilisation n'est pas la seule raison du déchaînement qu'elle a subi sur les réseaux sociaux notamment. Quand elle a été invitée par les députés français à parler devant l'Assemblée nationale, les députés de droite et d'extrême droite ont appelé à boycotter cette réunion. C'est vrai que Greta Thunberg appelle le monde politique à faire son travail, à abandonner la posture du business as usual qui nous emmène dans le mur. Et au-delà des politiques, les hommes... Désolé Rouen, et en particulier de droite, et les réactionnaires, les conservateurs, ne supportent pas qu'une jeune fille les sermonne. Certains l'insultent sur la base de son handicap. Le philosophe Michel Onfray l'a traité de cyborg quand elle est passée à l'Assemblée nationale. Et Alain Finkielkraut, ex-philosophe, homme des médias de 70 ans, dans le grand entretien de France Inter le 20 septembre dernier, parle, je le cite, des abstraites sommations de la parole puérile.
Il y a donc du mépris, de la misogynie?
Et puis aussi de la jeunophobie, la peur que les jeunes prennent les commandes. Et puis bien sûr, les climato-sceptiques, les autres conspirationnistes qui nient simplement le réchauffement, se livrent à des attaques sauvages sur les réseaux sociaux. Mais elle a convaincu.
Elle est là, elle a été encore applaudie hier à l'ONU. Jean-Marc, vous-même, êtes-vous séduit par le discours de Greta Thunberg?
Pas tellement.
Bon, c'est votre droit en tout cas. Merci d'avoir appelé de Lubumbashi en République démocratique du Congo. À bientôt Agnès Rougier. On aura l'occasion évidemment de reparler de Greta Thunberg qui avec d'autres jeunes hier a intenté une action en justice pour dénoncer l'inaction de 5 pays contre le réchauffement climatique comme une atteinte à la Convention de l'ONU sur les droits de l'enfant. Et parmi ces 5 pays figure la France. 10h18 à Paris, 33 9 693 693 70. Bonjour Frédéric Charles.
Bonjour.
Correspondant de RFI au Japon, nous vous avons contacté ce matin car nous avons reçu des questions sur le procès Fukushima, plus de 8 ans après la catastrophe nucléaire. Et c'est Blaise qui vous pose ces questions. Bonjour Blaise.
Bonjour Juan.
Vous êtes à Bamako, nous vous écoutons avec Frédéric Charles.
Oui Juan, après la catastrophe nucléaire de Fukushima, 3 dirigeants du groupe TEPCO, opérateur de la centrale, accusés de négligence, ont été acquittés par un tribunal de Tokyo. Donc je voudrais savoir comment expliquer cet acquittement. Cet acquittement a également suscité de l'indignation chez les ONG environnementales, notamment Greenpeace. Un recours est-il possible?
Un nouveau recours est-il possible? Le président de TEPCO, qui est donc cet opérateur qui exploitait l'usine nucléaire, et deux de ses vice-présidents de l'époque ont été innocentés. Frédéric Charles, comment expliquer cet acquittement?
Vous savez, au Japon, hors il n'y a point de salut, l'individu est secondaire et le pays tend à pratiquer une culture de l'irresponsabilité individuelle. Il faut dire aussi que ce procès a failli n'avoir jamais eu lieu. Les procureurs avaient refusé à deux reprises d'engager des poursuites contre les 3 anciens dirigeants de TEPCO, l'opérateur de la centrale de Fukushima. Ils estimaient qu'ils ne pouvaient pas prévoir l'ampleur du séisme et du tsunami. Réexamen de l'affaire par un panel de citoyens de Fukushima a permis de renvoyer devant le tribunal le dossier rejeté par les procureurs. Le fait que ce procès ait eu lieu est un achèvement en soi, car c'est la première fois qu'une action en justice met en cause des responsabilités individuelles dans l'accident de Fukushima.
Et pourtant, Frédéric Charles, le tribunal de Tokyo a jugé que les dirigeants de TEPCO n'avaient pas commis de négligence professionnelle.
Oui, parce que le tribunal a limité, peut-être volontairement, ses délibérations sur le seul fait de savoir s'il avait existé un certain niveau de prédiction d'un gigantesque tsunami pour définir si l'accusation de négligence ayant entraîné la mort était qualifiée ou non. D'un point de vue purement légal, c'est très difficile à prouver. Les procureurs estimaient, eux, que les anciens dirigeants de TEPCO n'avaient pas suffisamment pris en compte le risque de tsunami. 4 ans avant l'accident nucléaire, les patrons de TEPCO disposaient d'études mentionnant le risque de vagues dépassant les 15 mètres de haut et ils n'avaient pas approuvé un projet de renforcement de la protection de la centrale pour des raisons économiques. Les procureurs avaient requis 5 ans de prison, le maximum prévu par la loi, contre les 3 anciens dirigeants de TEPCO, mais ils n'ont pas été suivis par le tribunal.
Alors pourquoi justement les procureurs n'ont-ils pas été suivis? Et Blaise nous demandait également si un recours est possible. Frédéric Charles.
Oui, eh bien, il faut d'abord dire qu'au sein du village nucléaire, cette expression japonaise est utilisée pour décrire la toute-puissance du lobby nucléaire japonais, eh bien, les tribunaux font toujours preuve de la plus grande clémence envers les responsables des centrales nucléaires, et les grands médias japonais, qui font partie eux aussi de ce village nucléaire, ont peu médiatisé ce procès, et ils se gardent, autre constante, de critiquer le jugement du tribunal. Recours il y aura, c'est le début d'une longue bataille judiciaire, elle pourrait durer 10 ans, et peut-être que d'ici là, des responsabilités individuelles seront reconnues dans cet accident et ses conséquences, en particulier la mort de 44 personnes âgées évacuées d'un hôpital de façon chaotique. Mais avant les Jeux Olympiques de Tokyo de 2020, le gouvernement veut faire oublier Fukushima.
Affaire à suivre donc, et on le rappelle évidemment qu'à ce jour, aucun dirigeant de TEPCO n'a été condamné pour la catastrophe de Fukushima. Merci beaucoup Frédéric Charles, bonne journée, plutôt bon début de soirée à Tokyo, où vous êtes le correspondant de RFI. Blaise, merci de nous avoir appelés de Bamako. On reste dans la capitale malienne. Taïrou est avec nous ce matin. Bonjour Taïrou.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs et à toute l'équipe d'Appel sur l'actualité.
Merci de votre fidélité. Vous avez des questions, vous, sur le procès d'Amadou Sanogo, le chef de l'ex-junte malienne?
Tout à fait. Incarcéré depuis 6 ans, une nouvelle demande de libération de Amadou Sanogo a été encore rejetée. Pourquoi cette nouvelle demande de liberté a-t-elle été rejetée? Pourquoi le procès de Amadou Sanogo et de ses co-accusés prend-il autant de temps?
Ouais, cela fait 6 ans, effectivement, que le capitaine Sanogo est en prison. Bonjour Coralie Pierret.
Bonjour.
Journaliste au service Afrique de RFI. Pourquoi la demande de liberté provisoire du capitaine Sanogo a-t-elle de nouveau été rejetée?
Alors d'abord, il faut préciser que ce n'était pas une nouvelle demande de liberté provisoire. En fait, celle-ci avait été déposée en 2018, selon l'un des avocats d'Amadou Sanogo, maître Tiesolo Konare. D'abord rejetée dans un premier temps, la défense avait fait appel de cette décision et la semaine dernière, la Cour suprême a en fait rejeté cette ancienne demande. Alors, au-delà de ces explications juridiques, c'est loin d'être la première fois que les avocats demandent la liberté provisoire pour leurs clients. Environ une dizaine a été déposée, à chaque fois rejetée. Amadou Sanogo, vous le rappeliez, est l'auteur du coup d'État en 2012. Il est incarcéré depuis 6 ans et il avait été arrêté à son domicile, rappelez-vous, en 2013, puis mis en examen pour assassinat et enlèvement.
Oui, mise en examen pour assassinat et enlèvement, ça veut dire donc qu'il n'est pas poursuivi pour son putsch.
Non, effectivement, c'est bien pour le meurtre de 21 militaires que le capitaine Sanogo, devenu général, est inculpé. Lui et ses hommes, des bérets verts, sont accusés d'avoir enlevé d'autres soldats, des bérets rouges, de les avoir jetés dans une fosse commune après les avoir tués par balles. Alors, ces faits remontent au premier jour de la junte, 5 semaines après la mutinerie du capitaine Sanogo et de ses fidèles. Cette nuit du 30 avril au 1er mai 2012, les commandos parachutistes, les fameux bérets rouges, fidèles au président déchu Amadou Toumani Touré, tentent de reprendre le pouvoir. Mais c'est un échec. 2 jours plus tard, 21 d'entre eux sont emmenés à Diago, à quelques dizaines de kilomètres de la capitale Bamako.
Et 1 an et demi plus tard, on s'en souvient, les corps des bérets rouges sont exhumés de cette fosse commune de Diago par le juge d'instruction.
Oui, des tests ADN effectués par un laboratoire américain confirme qu'il s'agit bien des bérets rouges assassinés en 2012. Mais ce n'est pas le début du procès pour autant. Amadou Sanogo attend jusqu'en 2016 pour être envoyé devant une cour d'assises. Le 30 novembre de cette même année, le procès s'ouvre à Sikasso, à 400 km de la capitale. Mais il a tout de suite été renvoyé, rappelle l'un de ses avocats, maître Mariam Diawara, parce que la défense a justement contesté tester les résultats ADN des scientifiques américains. De nouvelles analyses ont été commandées à un laboratoire, cette fois malien, mais depuis, plus rien.
Ah, justement, plus rien, Taïrou nous demandait pourquoi. Pourquoi le procès n'a jamais repris ?
Alors, les blocages semblent politiques pour le professeur à l'université de Bamako, Issane Diaye. D'abord parce qu'il y a un risque de déballage public des affaires d'État. Les révélations que pourrait faire Amadou Sanogo pendant son procès font peur à la classe politique, majorité comme opposition, selon le politologue. Ensuite, ce procès pourrait faire renaître une rivalité interne à l'armée entre les Bérets Rouges, l'ancienne garde présidentielle, et les Bérets Verts, les hommes de Sanogo, deux groupes militaires qui ont toujours une influence sur l'appareil d'État.
En deux mots, peut-on imaginer une libération de l'ancien putschiste sans procès ?
Alors, c'est ce qu'espèrent en tout cas ses avocats. D'autres assurent qu'il pourrait peut-être bénéficier de la loi sur l'entente nationale dénoncée par certaines associations de défense des droits de l'homme. D'ici là, Amadou Sanogo est toujours emprisonné à Selengué, à plus de 100 km de la capitale.
Taïrou, on a répondu à vos questions ?
J'espérais pas mieux, c'est parfait.
Voilà, un 10 sur 10 donc pour Coralie Piret. Merci Coralie, bonne journée à vous et merci à Taïrou qui nous appelait donc de la capitale malienne. Bonjour Alejandro Valente.
Bonjour Juan.
Bienvenue, vous êtes arrivé en courant, un sprint pour rejoindre le studio d'appel sur l'actualité et pour répondre à Fadel qui est à Libreville au Gabon. Soyez le bienvenu Fadel.
Bonjour Juan, bonjour Réfé.
Vous avez... El Réfé, bien sûr, le chef du service des sports. Vous avez des questions sur la révélation de ce début de saison du FC Barcelone?
Le jeune Ansu Fati, qui est de nationalité bissau-guinéenne, portugaise mais aussi espagnole depuis ce week-end, fait l'objet de plusieurs convoitises de sélection nationale. Alors, qu'est-ce qui favorise, qui a favorisé son éclosion au sein du FC Barcelone à tout juste 16 ans?
Alors,
et a-t-on une idée de la sélection qu'il pourrait choisir?
Ouais, va-t-il choisir l'Espagne, la sélection bissau-guinéenne? À mon avis, le choix est fait. Alejandro Valente, il faut qu'on retienne ce nom. Ansu Fati, il a seulement 16 ans et il est devenu, il y a deux semaines, le plus jeune buteur de l'histoire du FC Barcelone.
Et oui, c'est un peu une surprise parce qu'on s'attendait pas à les voir éclore si vite. On savait que c'était un des talents de la Masia, les centres de formation de Barcelone, mais il a profité, disons, d'un concours de circonstances puisqu'à la fois Messi, Suarez et Dembélé étaient blessés, donc l'entraîneur Valverde a dû puiser un petit peu dans les jeunes de l'effectif et Ansu Fati a eu sa chance et il a su la saisir.
Ouais, il devient d'ailleurs le troisième plus jeune buteur du championnat espagnol de la Liga. L'année dernière, il a fait déjà une belle saison. Il évoluait dans le championnat des jeunes, c'est bien ça, hein?
Oui, voilà, ça fait partie des plusieurs joueurs, jeunes joueurs, que Barcelone couvre dans son centre de formation. Mais c'était pas lui qu'on attendait le plus. On attendait davantage l'éclosion d'un Riqui Puig ou d'un Alenia ou d'un Carlos Pérez. Mais bon, lui, il a su saisir sa chance.
Alors, Fadel le disait, il est de nationalité bissau-guinéenne. Depuis 3-4 jours, il a la nationalité espagnole. On sait que le sélectionneur espagnol des moins de 17 ans l'a à l'œil.
Bah évidemment, parce que de fait, la fédération avait demandé une nationalisation express et c'est le conseil des ministres lui-même qui a octroyé sa nationalité espagnole à Ansu Fati vendredi dernier, ce qui a permis de l'inscrire parmi les joueurs qui vont participer à la Coupe du Monde.
Il est déjà inscrit,
voilà,
sur la liste.
Voilà, de moins de 17 ans au Brésil. Cela dit, en Guinée-Bissau, on s'est dit encore serein parce qu'on s'est dit que ça n'a rien de définitif, c'est-à-dire que le choix d'un pays ne devient définitif que lorsqu'on participe à une compétition avec l'équipe A. Et pour l'instant, c'est pas programmé.
Bon, en tout cas, sur un plan purement professionnel, il a tout intérêt à évoluer avec le maillot rouge, le maillot de la Roja, j'imagine.
Oui, même si son père a semé un petit peu le trouble ce week-end en disant que son rêve et celui de son fils auraient été de jouer pour le Portugal. Ah. Alors que le Portugal, visiblement la famille avait lancé quelques appels que la fédération portugaise n'avait pas saisi. Est-ce que ça peut brouiller un peu les cartes? On ne sait pas, mais je pense que quand même la pression est assez forte pour qu'il joue pour l'Espagne.
Fadel, est-ce que le Réfé a répondu à vos questions?
Mais comme la...
Comme? Vous avez été coupé. Ah bah c'est dommage ça. Je pense qu'il allait vous donner un 10 sur 10, évidemment,
merci,
Alejandro. À bientôt Alejandro Valente. Fadel, bonne journée. À Libreville, restez avec nous. On va marquer une pause, retrouver l'ensemble du service Afrique de RFI pour la dernière édition d'Afrique Matin. Et on revient tout de suite après pour parler de la crédibilité des Nations Unies.
Retrouvez Appel sur l'actualité après le journal avec Orange Money, leader du transfert d'argent.